Joyce, on va bien sûr parler des États-Unis, de Barack Obama. Les États-Unis, Barack Obama, c'est indissociable. Est-ce que vous l'avez regardé, j'imagine, l'entrevue qui est passée pour Noël, là, où Oprah Winfrey est allée les interviewer, lui et Michelle Obama, à la Maison-Blanche?
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la note que Barack Obama s'est donnée.
À lui-même, en fait, oui.
Un B+ pour cette année. Une année qui a été quand même très difficile, il faut le dire. Il a hérité d'un véritable bourbier économique, de guerre, etc. On connaît l'histoire. Et donc ça a été une année difficile. Je pense que ça a été également une année étonnante parce que c'est voilà un président qui était très populaire, qui avait une majorité au Congrès et à la Chambre des représentants et au Sénat, et qui finalement cette fin d'année a les mains et je dirais même les pieds liés presque. Alors c'est intéressant à regarder. B+ pour Barack Obama peut-être. Moi je dirais un bon C- pour la démocratie américaine.
Cette année particulièrement?
Oui, je pense que cette année particulièrement.
Ah, c'est drôle que vous disiez ça cette année en même temps, avec son arrivée. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que la démocratie reprenait un peu du mieux?
Eh bien,
avec
exactement.
Un gouvernement démocrate?
Voilà, alors je pense que pour justement cette désillusion, elle mérite peut-être un C-. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait, il est venu, et rappelez-vous, moi je me rappelle de ce 20 janvier, il faisait très froid, mais c'était palpitant, c'était électrique. Washington, c'était pas du tout la ville qu'on connaît aujourd'hui. Les gens se parlaient dans les rues, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait que des piétons. C'était un vrai happening politique. C'était vraiment l'espoir ce jour-là. Et peut-être que nos attentes étaient démesurées, et les attentes de toute la planète, peut-être que c'est ça. Et cette année, on aura appris que les attentes en politique ne peuvent pas être démesurées. Il avait promis une réforme de la santé. Aujourd'hui, c'est une réforme qui a perdu ses dents, pour ne pas dire autre chose. La réforme du système financier, moi, je ne sais pas si vous l'avez vue, moi, je l'attends toujours, mais je l'attends assise, cette fois. Vous savez, il y avait beaucoup de choses auquel on s'attendait et qu'on n'a pas vu.
Mais il y a une vraie déception. Le constat que vous faites, il est assez sévère, mais vous êtes déçu parce que vous dites qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire ou parce que la réalité, finalement, on ne peut pas faire ce qu'il voulait faire?
Je pense que c'est plutôt la réalité parce que les intentions étaient bonnes et je pense que les intentions étaient véridiques. Je veux dire, il a pas menti en campagne électorale. Mais je vous donne un exemple. Prenons l'exemple de la réforme du système de santé. Ils ont vendu l'âme de cette réforme aux groupes de pression. Je parle des compagnies pharmaceutiques et des compagnies d'assurance. Je veux dire, c'est pas du tout la réforme qu'on attendait. C'est une réforme qui, l'option publique, c'est-à-dire cette disposition qui aurait permis aux Américains de choisir entre un système privé, qui coûte très très et de plus en plus cher, le système le plus cher au monde d'ailleurs, et un système public géré par le gouvernement qui pourrait en quelque sorte faire qu'on contrôle les coûts de ce système de santé. Eh bien, cette option publique, elle est morte, feuilleton. On pouvait acheter aux États-Unis, selon une disposition, des médicaments beaucoup moins chers parce que les médicaments ici coûtent 2, 3, 4 fois plus cher qu'au Canada. On aurait pu les acheter au Canada. Eh bien non, ils ont enlevé cette disposition et en fait, ils ont interdit l'achat de médicaments moins chers ailleurs. Merci les compagnies pharmaceutiques, c'est un joli cadeau de Noël qu'elles ont reçu. Oui. Vous voyez, alors on regarde et on épluche un peu et on commence à voir que les compromis, il y a eu tellement de compromis qu'en fait l'âme de cette réforme n'existe plus.
Alors, ça va passer ou ça ne passera pas? Parce que même à l'intérieur du Parti démocrate, là, il y a des voix dissidentes qui s'entendent. Il y a celle de Joe Lieberman qui est un cas en lui seul, là, mais il y a aussi l'ancien gouverneur du Vermont, Howard Dean, qui dit que lui, il ne voterait pas pour ça s'il était sénateur. Est-ce que même chez les démocrates, on commence à reculer?
Ah bien sûr, mais chez les démocrates, on reculait depuis le début, Christiane. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Il y a des élections de mi-mandat et bien entendu, les députés, les sénateurs ont peur de ne pas se faire réélire parce qu'il y a eu toute cette campagne de peur sur cette réforme de la santé qui a collé. Ça, c'était une campagne de peur très efficace. Rappelez-vous des termes comme des tribunaux de la mort, des fonctionnaires vont décider si vous avez droit à un médecin, qui vont choisir vos médecins. C'était des choses qui n'était pas du tout vrai, c'était pas du tout dans le projet de loi. Ça n'a jamais été dans ce projet de loi d'ailleurs, mais ça a marché. Et donc, au fil des mois et au fil des débats, il y a eu trop d'eau dans le vin. Alors bon, maintenant on a beaucoup d'eau et très très peu de vin. Alors bien sûr, un gars comme Howard Dean, qui est un peu, si vous voulez, l'aile à gauche du parti, va dire ben, il n'y a plus rien dans ce projet de loi. Il n'y a pas ce qu'on voulait. Nous, on avait milité pour une vraie réforme avec un grand R. Et là, ce qu'on a, c'est bon, quelque chose de beaucoup moins noble et de beaucoup moins pratique finalement. Les Américains ne seront pas plus protégés et les compagnies pharmaceutiques et les compagnies d'assurance continueront de faire la pluie et le beau temps.
Barack Obama qui traite les banquiers de fat cats, c'est un bon coup ça, de les appeler comme ça, ou ça montre de la force, ça les fait bouger, ou comment vous avez interprété ça?
Et écoutez, ça les a fait réagir, il les a convoqués à la Maison-Blanche, mais vous savez, les banques, ce qu'elles sont en train de faire en ce moment, c'est qu'elles remboursent ce que les contribuables leur ont prêté après la catastrophe financière. Ils sont en train de rembourser. Et comme dit Barack Obama, ils ne remboursent pas parce qu'ils trouvent qu'ils devraient rembourser, parce que bon, là, ça va faire. On a pris l'argent des contribuables en période de crise parce qu'on a fait des bêtises. Ils remboursent parce qu'ils veulent se donner des bonus et se récompenser. Vous savez, on parle de milliards de dollars en bonus, de milliards, pas des millions, des milliards de dollars en
Donc
bonus.
ça ne change pas du tout, là.
Ben, ça n'a pas l'air de changer, c'est un peu la honte. Alors bon, aujourd'hui, le jeu, si vous voulez, leur jeu a été découvert par cette crise. Donc le petit épargnant comprend un peu mieux ce que font ces banques. On les aime un peu moins. Déjà qu'on ne les aimait pas beaucoup au départ, on les aime beaucoup moins. Mais vous savez, quand il les a tapés sur les doigts et il les a traités de banquiers bien gras, moi je ne me suis pas fait élire pour aider ces banquiers bien gras, ces fat cats, alors qu'ils étaient tous à la Maison Blanche à échanger avec le président des États-Unis au Congrès, qui essaye d'adopter une réforme du système financier, eh bien, il y avait les lobbyistes de ces banquiers qui essayaient de mettre des bâtons dans les roues de la réforme. Et il y avait une méchante hypocrisie ce jour-là, parce que d'une part, ils étaient à la Maison-Blanche en train de dire « on vous entend le peuple, oui, on comprend, on va commencer à vous prêter un peu plus d'argent », parce qu'en plus, les banques refusent de prêter parce que elles croient pas en cette reprise économique, donc elles veulent pas prendre de risques. Et c'est le risque, c'est qui? C'est le petit épargnant, c'est la petite et moyenne entreprise, c'est ce qui sont les grandes créatrices d'emplois aux États-Unis.
Ouais.
Alors il y a quand même quelque chose qui cloche quand vous êtes observateur comme on l'est et que vous regardez aller, vous vous demandez pourquoi les Américains ne sont pas un peu plus en colère.
Alors, il nous reste 3 minutes au chronomètre. Joyce, il y a la question de Guantanamo qui serait déménagé en Illinois sur le territoire américain parce qu'il avait promis, Barack Obama, dans ses promesses électorales, c'était de fermer Guantanamo. Et puis, il y a peut-être qu'il est dans l'avion pour aller à Copenhague maintenant ou bientôt, en tout cas. Il va à Copenhague en 2 mots sur chacun de ces points.
Sur Guantanamo, l'Illinois, L'Illinois est heureux, l'État de l'Illinois est
Ça,
très
parce que ça
heureux
amène du
parce que
travail, ça crée
ça
des
va
emplois. Oui.
exactement, ça va être créateur d'emplois, 3 000 emplois, c'est une petite localité déprimée, etc. Donc, bonne idée. Mais vous allez entendre crier au Congrès américain, vous allez entendre des cris, ils vont s'arracher la chemise, ils vont parler de sécurité. Déjà, ils disent, c'est à 200 km de Chicago, il y a des gratte-ciel à Chicago. Le reste, je vous laisse, bon, je laisse libre cours à votre imaginaire. Mais alors, donc, il va y avoir un débat là-dessus. Il essaye de fermer Guantanamo. C'est son propre parti qui lui a mis encore une fois des bâtons dans les roues en disant vous pouvez pas les emmener en territoire américain, c'est des terroristes. Ils n'ont pas subi de procès, mais bon, on sait que c'est des gens qui sont dangereux. Il y en a 100 qui sont plus ou moins dangereux qu'on voudrait transférer en Illinois et 115 qu'on voudrait renvoyer ou qu'on va renvoyer dans leur pays ou dans un autre pays qui veut bien les accueillir. Alors ça, ça va être un débat. C'est pas fait, hein, c'est pas chose faite. Il achète la prison. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez fermer une prison? Vous êtes président des États-Unis, eh bien achetez-vous une prison. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Mais vous allez entendre un débat aux États-Unis là-dessus, sur l'environnement. Oui, encore une fois, vous savez, on apprend cette année le pouvoir du Congrès. Hein, parce que voilà un président qui a été élu, qui était très populaire, qui avait de très bonnes idées. Et on voit le Congrès à l'œuvre qui essaye de... Vous savez, c'est un peu comme une couverture. Le Congrès tire la couverture de son bord. Et bien, sur l'environnement, tous ces gens-là, pas seulement Barack Obama, mais d'autres chefs d'État, d'autres chefs de gouvernement vont arriver à Copenhague. Ils ont tous de bonnes intentions et je suis sûre que c'est de vraies bonnes intentions, mais ils vont revenir affronter chacun leur congrès, leur parlement respectif. Là, il va y avoir des budgets à débourser et il va y avoir des débats un peu partout dans le monde, plus locaux si vous voulez. Et Barack Obama aura ce même débat avec son congrès et il essaye de contourner son congrès avec l'Agence américaine de protection de l'environnement. Vous savez, il a essayé par des manœuvres assez originales d'ailleurs, de contourner son congrès pour pouvoir justement mettre des limites aux émissions américaines.
Oui, alors Joyce, ça sera à suivre en 2010. Je vous souhaite à vous, je ne sais pas si c'est à Washington ou ailleurs, Joyce, mais je vous souhaite un très bon congé de Noël. J'espère que vous en avez un.
Absolument.
Et puis, on se reparle bientôt en 2010. Merci beaucoup, Joyce Napier.
Au revoir.
Joyce nous parlait depuis Washington, elle est correspondante à Washington pour Radio-Canada.